étudié, on a commencé la semaine dernière le premier Pérec de Sha'arichut Ve'emouna, donc page 153 en vérité.
Hein? Oui, messieurs. Heureusement que tu m'as pas dit les 10 tébêtes.
On a commencé la semaine dernière
le premier cours.
Donc on a fini la semaine dernière le premier chapitre de Sha'arichut Ve'emouna. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce premier chapitre de Sha'arichut Ve'emouna? On a ramené un verset qui est écrit, qu'on lit tous les matins dans la Tfila. On le dit également l'après-midi et le soir. On dit Ve'yadata ayom vashevota elevavecha ki Hashem hu elokim bashama imal val haret mitachat enot. Je traduis. Le verset, il dit, tu sauras aujourd'hui, tu prendras à cœur, tu te rappelleras que Hachem, c'est Elohim, et que c'est la même chose dans le ciel en haut et dans la terre en bas, il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était ce que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, juste avant de quitter ce monde. Donc le grand message, apparemment. Donc la question qu'a posée la Dvora Zaken, il a dit a priori, le message est banal. C'est évident qu'il y a un seul Dieu. Surtout avec tout ce qu'ils ont vu, on a besoin de le répéter. Zach. Ça va, Azek?
Chut,
il a dit qu'il allait venir.
D'accord. C'est très plaisir.
Plus tu viendras et plus c'est... Non, non. Il est tard. Ah, il termine.
Alors... Zerachia. Pas Zerachia? Hein? Je connais Zerachia.
C'est un jumeau.
Non, non.
Zerach.
C'est Zerach.
Zerach, il a brillé.
Zerach, c'est Zerach.
Celui qui est en costume. C'est l'autre.
Les phares de Pérez.
Monsieur Méliné.
Ok. Alors, donc on a expliqué, l'Admor HaZaken a expliqué. Et là, on vient de commencer. C'est écrit, Ve'yadata ayom vashevota levavecha. Dieu nous dit, Moshe Rabbeinu nous dit juste avant de partir de ce monde, il nous dit, tu te rappelleras, tu prendras à cœur, que Hachem, c'est Elohim, et que à part Dieu, il n'y a personne. Et apparemment, ça c'est le grand message que Moshe Rabbeinu a délivré au Bnei Israël, juste avant de partir de ce monde. Donc c'est quoi la question qu'on a posée, Yves? On a dit a priori, Le message est banal, le message est évident. Alors, pour répondre à cette question, l'Admor HaZaken a amené un pirouge du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'a dit en quelques mots, mais nous on va le développer en quelques cours. Le Baal Shem Tov commente le verset qui dit « Le'olam Hashem Tvaracha Nitzav Vashamayim ». Il y a un verset dans lequel il est écrit que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux. Le Baal Shem Tov dit, ça veut dire quoi que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux? Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov a une approche très innovatrice de... Apparemment, c'est le premier à l'avoir dit. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Il dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde... Là, tu écoutes bien, David? Alors, tu vas tout comprendre. Non, parce que t'es intéressé sur un... Écoute bien, je vais faire un petit résumé en 2 minutes. Le Baal Shem Tov explique la chose suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec la parole. Par exemple, on sait que pour créer la lumière, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que Dieu a créé, nous on crée avec nos mains, avec nos pieds, avec ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu, lui, il crée avec sa parole. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais c'est quoi le chidouche? Le chidouche est le suivant. Il explique le Baal Shem Tov, que la parole de Dieu est le vecteur de communication par lequel l'énergie va passer pour alimenter cette créature. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la lumière a été créée. Donc, pour créer la lumière, il fallait dire Yei Or. Or, en hébreu, ça veut dire quoi? Lumière. Aleph, Vav, Resh. La parole de Dieu, Aleph, Vav, Resh, c'est un vecteur qui communique l'énergie qu'il faut pour générer la lumière. Et ce vecteur doit toujours être là. C'est ce qui veut dire que la parole de Dieu est toujours là. Si la parole de Dieu, si ce vecteur s'arrêtait un seul instant, il n'y aurait plus de lumière. Même pas besoin de le détruire, il n'y aurait plus de lumière du tout. Alors après, elle a expliqué l'Admor HaZaken, elle a dit que bon, quand on lit les mots du Baal Shem Tov, ça nous paraît très simple. On dit oui, bon d'accord, Dieu a dit, mais pour l'instant, quand on ouvre la paracha Bereshit, on voit la création du monde, combien de paroles Dieu a dit? 10 paroles. Ouais, si tu fais avec 10 paroles, c'est rien. Alors l'Admor HaZaken, il a dit attention. Quand on dit les 10 paroles, c'est pas 10 paroles comme ça. Et là, on est rentré la semaine dernière dans, je veux pas revenir dessus, d'accord? Dans toutes sortes de dérivés. Ça veut dire, si on est parti par des guimatriates, et de prendre des lettres qui sont de la même valeur numérique, et de prendre des lettres qui sont du même groupe de paroles, etc., etc. On avait dit que le Sefer Yetzirah a dit qu'il y a 202 techniques qui s'apparentent à la guimatria. Donc imaginez-vous le nombre de combinaisons auxquelles on peut arriver. Je veux pas revenir dessus parce que ça c'était la semaine dernière. C'est pas le but. Donc, pourquoi l'Admor HaZaken a expliqué tout ça? pour expliquer que finalement, dans le monde ici-bas, et c'est là l'introduction du cours d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule chose qui n'est pas alimentée constamment par la parole de Dieu. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ce principe ?
Oui.
Je répète. Il n'y a pas une seule chose dans le monde, à aucun instant donné, qui n'est pas reliée en live à Kadosh Baruch Hu. C'est comme l'électricité. Tu coupes, tout est coupé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a pas, ça ne peut pas continuer. Si tu as de l'énergie, ça veut dire qu'il y a un générateur derrière qui envoie de l'énergie. On est d'accord ?
Qu'est-ce qui se passait concrètement si ça se coupait cette énergie ?
Eh bien, si se passait, ça arrête d'exister.
C'est-à-dire quoi ? Ça disparaît ?
L'énergie arrête d'exister, donc tout disparaît.
C'est-à-dire ?
Comme ça explique le Baal Shem Tov. Et c'est pour ça que le roi David dit en Tehilim, Léolam, Hashem, Vacha, Nitzav, Bashamaim, que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux. Pas parce que Dieu continue, pas parce que Dieu c'est une pipelette, il arrête pas de parler. Hein, la parole de Dieu est toujours là, c'est-à-dire qu'il arrête pas de parler, Chas v'Shalom. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la parole de Dieu, la parole c'est le vecteur de l'énergie, et si cette parole s'arrêtait un seul instant, il n'y a plus d'énergie.
C'est comme la balle.
C'est simple que ça, exactement. Bon.
Ça,
mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pardon ?
C'est vrai pour chaque élément.
C'est vrai pour chaque élément. Il n'y a aucun élément de la nature qui ne suit pas cette règle. Bon, le problème c'est que si on explique comme ça, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que ça veut dire qu'en vérité, il n'y a aucun élément dans la nature qui est indépendant de la volonté de Dieu. D'accord ? Donc, voilà, donc on a dit par exemple comment on fait avec le libre arbitre, comment on fait avec le mal ? Il doit constamment être alimenté par Dieu, parce que sinon il arrête d'exister.
C'est nous qu'on alimente.
D'accord ? Ah oui,
mais
attends.
Non,
mais nous on est alimenté par Dieu. Mais nous on est alimenté par Dieu.
C'est la mort.
Tu comprends ? C'est-à-dire le problème, c'est que nous on croyait jusqu'à présent que Dieu il nous a créés, et il a tout mis entre nos mains. Il a dit bon, tu te débrouilles, dans 120 ans, Bezrat Tachem, si tu as de la chance, tu reviens, et on fait les comptes.
La mort, c'est pas l'absence de parole.
Encore une fois.
L'absence de parole, c'est la disparition.
Non, c'est pas la mort, pas du tout. La mort, c'est pas que l'énergie s'arrête. Parce que si l'énergie s'arrête, il n'y aurait même plus un corps mort.
Ni un corps mourant.
On va expliquer. On va y arriver. Oui. Mais le fait que tu vois encore un corps qui reste là, ça veut dire qu'il reste encore de l'énergie.
Il est mort.
D'accord.
Il n'est pas animé.
L'énergie de l'âme n'est plus là. Mais l'énergie du corps est toujours là. Le fait même que tu as un corps, ça veut dire que, de toute façon, rien ne se fait, tout se transforme, quoi qu'il en soit. Bon, d'accord. Alors, donc je reviens. À quel principe le Gemara Zaken veut arriver ici ? Un principe très important. C'est qu'il n'y a rien dans le monde, il n'y a aucune créature qui est indépendante de la volonté de Dieu. C'est le principe avec lequel on est arrivé. C'est que s'il est là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui le fait vivre. Ça pose beaucoup de problèmes, ça.
Ben, bien sûr,
ça pose un tas de problèmes, parce que nous, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on croyait ? C'est vrai, moi, qu'est-ce qu'on croyait ? Depuis que tu me dis, qu'est-ce que je croyais ? Je croyais que Dieu nous a créés, il a dit, bon, écoute, tu fais le mitzvot, la verot, etc. Et quand tu, dans 120 ans, tu arriveras en haut, on fera le bilan, et on verra ce que tu as fait, et tu reviens. Mais c'est vrai. D'accord ? Tu pars, tu reviens. Or, d'après ce qu'on est en train d'expliquer ici, il n'y a pas je pars, je reviens, je suis toujours là. Peut-être moi, je crois que je suis parti, mais en vérité, je suis toujours là. Dieu est toujours là. Et Dieu est toujours derrière moi. Ça pose beaucoup de problèmes, ça. Sur la notion de libre-arbitre, sur la notion du bien et du mal, même de manière générale pour comprendre quelle est ma mission. Tu comprends si tu me dis que finalement je suis manipulé par Dieu, que je crois que je gère, mais en vérité je gère rien du tout, hein, que dalle, excusez-moi du terme, enfin j'ai rien du tout. En ce cas-là, ça fausse tout le jeu, ça me dégoûte. Ça, la Gemara Zaken va commencer à développer. Mais déjà, c'était important de commencer avec cette première base dans le premier chapitre qu'on a étudié la semaine dernière, que il n'y a rien dans le monde qui n'est créé à part la volonté d'Akadosh, qui est indépendant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si on a ici devant nous une créature, ça veut dire que cette créature vient d'être créée par Akadosh Baruch Hu à l'instant même. C'est l'énergie. Parce que si cette énergie s'arrêtait un seul instant, eh ben l'énergie s'arrête, c'est fini. C'est logique. D'accord ? Alors maintenant, la Gemara Zaken maintenant va développer ça plus profondément. Mais avant de développer ça plus profondément, je voudrais d'abord expliquer quelques points. On a plusieurs manières de comprendre comment une chose peut découler de la cause à l'effet. Je vais expliquer ce que je veux dire. On a un premier exemple, qui est l'exemple le plus connu. C'est un artisan qui crée un ustensile. Par exemple, je vais donner à quelqu'un du verre. D'accord, enfin du sable, et avec ce sable, il va me créer une bouteille. D'accord ? Bon, c'est quelqu'un de... Il va me faire une très très belle bouteille. D'accord. Tu peux donner aussi de l'or ou de l'argent à quelqu'un, il va te faire un super beau verre de kidouche. D'accord. Sauf que, une fois que le verre a été façonné, l'artisan et le verre n'ont plus aucun rapport. Ça veut dire que l'artisan peut mourir, le verre sera toujours là. On est d'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le verre continuera à porter le nom de l'artisan, si on veut bien, on se rappellera que c'est monsieur un tel qui a fait ça, bon. Mais le verre et l'artisan sont deux éléments qui sont complètement différents. Donc dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle le ouman, l'artisan, qui prépare un keli, un ustensile. L'artisan et le keli et l'ustensile sont deux entités complètement différentes. Un a eu un impact sur l'autre, d'accord ? Mais c'est pas vraiment cause et effet, c'est que un a travaillé sur l'autre. De la même manière que, par exemple, je peux enseigner quelque chose à quelqu'un, il va s'en rappeler, mais je peux mourir et l'enseignement sera toujours là. Shalom. Non, mais pourquoi ? Ça veut dire qu'on a deux entités qui sont différentes, qui sont séparées. Et que une a eu un impact sur l'autre à un moment donné, et que, une autre fois, ça pourrait être le contraire. On est d'accord ? Ça, c'est le premier exemple. Premier exemple d'impact d'une créature sur une personne, donc sur le créateur. Donc là, est-ce qu'on peut parler de créateur quand on parle de cet artisan qui a créé le verre ?
Oui. Non, parce qu'il a créé à partir de...
Eh oui, c'est le problème. Aujourd'hui, dans le monde, on dit créateur. Créateur, c'est... Créateur, dessinateur de mode, créateur.
Faut faire ex nihilo. D'accord ?
Quoi ?
C'est pas ex nihilo qu'il a fait.
Créateur, innovateur. Alors, est-ce qu'il a créé quelque chose ?
Il a créé le verre.
Non, parce que la matière première
est piquée.
Eh ben non, il a rien créé. Il a façonné, c'est tout.
Oui. Transformé.
Nous, ce qu'on sait faire dans le monde, on sait uniquement façonner. Tu entends, David ? Ça veut dire, par exemple, je vais te donner du bois, tu vas travailler le bois, tu vas faire du papier. T'as pas créé du papier ? T'as façonné du papier.
Transformé du bois.
Transformé du bois en papier. Mais Jacob, il dirait que j'ai créé du papier. Non, pas Jacob, pardon. Un saint individu.
Donc, c'est la première catégorie. Donc ça, c'est la première catégorie de création. Vous me suivez ? Première catégorie de création, c'est l'artisan qui va façonner un ustensile. Donc, les gens appellent ça une créature en général, mais comme on a expliqué, c'est pas du tout une créature. La preuve, c'est que les deux sont indépendants l'un de l'autre. Ils sont pas dépendants l'un de l'autre, donc ça veut dire que c'est une entité qui a eu un impact sur une autre entité.
Création, tu veux dire.
D'accord ? Donc là, c'est pas une création. C'est un qui a façonné l'autre. Et après, à un moment, ça pourrait être le contraire. Bon. Ça, c'est la première catégorie. On a une deuxième catégorie de création. C'est le rayon qui découle du soleil. Donc, le soleil, c'est le créateur. Et le rayon, c'est la créature. Donc, c'est le même style. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui génère, on a un générateur qui génère de l'énergie. Alors, moi, je vais essayer de faire les choses simples, mais faites-moi confiance, c'est un chapitre assez compliqué. J'essaie de simplifier. Donc, on a une deuxième catégorie, c'est quoi ? C'est un générateur qui va générer de l'énergie. Donc, par exemple, le soleil, c'est quoi le soleil ? Bah, c'est une boule de lumière, c'est une boule d'énergie, qui va générer un rayon. D'accord ? Il va générer un rayon.
Thermonucléaire.
Là, on peut dire, est-ce qu'on peut dire maintenant que le soleil a créé le rayon ?
On l'a plus en dehors là.
Non. C'est une continuité.
Non. Est-ce que avant le soleil, le rayon existait ?
Il n'existait pas.
Donc le soleil a créé le rayon ?
Non.
Ils l'ont préparé.
Pourquoi non ?
Ils l'ont posé.
Il ne peut pas avoir créé.
Pourquoi non ?
Parce que c'est pas quelque chose.
C'est une continuité.
Le rayon, c'est pas quelque chose. Le rayon, c'est pas quelque chose. C'est une émanation.
Et alors ?
C'est pas quelque chose.
Et alors ? Pourquoi ? Et alors ? J'ai compris.
Mais tu comme si tu le montres. Rien.
Donc toi, tu dis que c'est pas une créature. D'accord. Bon. Alors.
C'est une expression.
C'est une expression automatique.
Voilà. Du soleil.
Très bien. Donc c'est la deuxième catégorie de création.
Un dérivé.
Très bien, c'est un bon point.
C'est un exemple bizarre parce que...
Ouais, je pense que tu peux trouver un
exemple. L'exemple, il n'est pas bon.
Pourquoi ?
Parce que le rayon du soleil, il y a un
problème. Je ne dirais pas ça puisque c'est un exemple.
C'est que le rayon du soleil, tu le vois lorsqu'il est en bas, et lorsque tu vas s'asseoir, tu le vois plus. C'est un
truc encore différent.
Tu le vois pas, mais il est là, puisqu'il vient de là-bas.
Mais en réalité, c'est une fiction.
Est-ce qu'on est...
Non, il n'est pas réel.
Non, excuse-moi, tu les vois, toi, les rayons de soleil ?
Moi, je les vois.
Oui, tu vois des rayons de soleil.
Non, c'est pas des rayons, ça. Tu te trompes.
Si, tu vois des rayons de soleil.
Non, c'est pas des rayons, ça.
Des rayons de miel.
Si.
Mais c'est une impression d'optique, ça. Attends, il n'y a pas des rayons de soleil.
C'est
une impression, il n'y a pas de rayon.
C'est pour ça que c'est pas...
C'est un rayonnement. Le rayon, il fait quelque chose.
Oui, non, il émet une source de chaleur.
D'accord. Cette source de chaleur. Bon, j'ai compris.
Et avec l'atmosphère,
j'ai compris. Bon, peu importe. cette source de chaleur.
Quand tu t'approches de la source,
j'ai compris. Cette source de chaleur, cette fameuse source de chaleur que tu es en train de parler ici. Est-ce que cette source de chaleur a été créée par le soleil ou pas? Est-ce qu'avant le soleil, il y avait cette source de chaleur?
Non.
Non. Donc c'était créé par le soleil.
Non, mais c'est le soleil.
Attendez, je développe.
Ça n'a pas été créé.
Elle n'a pas été créée, elle a été générée.
C'est un peu comme les anges.
Parce que quand tu nous as donné la bouteille, c'est deux corps différents. Là, le soleil et le rayon, c'est le même corps. C'est pas la même.
Ah non, c'est pas le même corps.
C'est le même corps.
Ah non? Ça n'a rien à voir?
Pas du tout.
Non,
c'est juste que c'est comme tu dis, est-ce qu'une ampoule elle a créé la lumière?
Non, l'ampoule, c'est le même corps.
L'ampoule, il y a l'ampoule ici qui est là en haut, ouais. Et il y a la lumière qui est ici. L'ampoule a créé la lumière, puisque sans l'ampoule, j'avais pas de lumière.
Mais non,
l'ampoule a généré de la lumière. Oui, la lumière, c'est une création. Dieu a créé la lumière. Attends, qu'on soit clair. Dieu a créé la lumière. La lumière, c'est une création. Donc quand j'ai un élément qui est capable de générer de la lumière.
C'est son effet sur les éléments.
C'est quoi ça, son effet? Mais j'ai de la lumière. La lumière, c'est une création.
C'est la lumière que Dieu a créée.
Cette lumière, elle s'éclaire.
Qu'il a créée.
Très bien. Alors, écoutez bien ma question, encore une fois, je répète. On a deux catégories de création. On va arriver à la troisième.
Différent.
Première catégorie de création, c'est quoi? C'est l'artisan qui a façonné un ustensile. Là, c'est clair que c'est pas une création. On est d'accord? C'est une transformation. Deuxième catégorie, c'est une source qui va générer un résultat. Donc, par exemple, le soleil qui va générer un rayon. Alors, ou de la chaleur. Donc, sans le soleil, j'avais pas la chaleur. La chaleur et le soleil sont deux entités différentes, sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le soleil a généré de la chaleur. Parce que pour moi, le soleil, ça ne sert à rien. La chaleur du soleil me sert à quelque chose. Donc, mais quand même, ça ne change pas. Que on ne peut pas réellement parler de création. Pourquoi? Puisque c'est automatique. C'est pas que le soleil est venu et il a dit, bon, maintenant, on va éclairer la Terre. Ah, je vise, attention. C'est automatique. Il rayonne. Donc, puisqu'il rayonne, on ne peut pas parler de création. C'est pas une création. Parce qu'une création, par définition, ça doit être ciblé. Je dois décider qu'est-ce que je crée, comment je le crée, où je le crée. Alors que le soleil ne domine rien du tout. Le soleil...
C'est son état.
C'est son état. Donc, on ne peut pas parler de création. C'est ce que tu voulais dire, Youssef?
Nous, on a une perception de ça, mais lui, il ne...
Ça veut dire, pour nous, c'est peut-être... Il y a peut-être un avantage.
On n'a pas la séparation des corps.
D'accord. Si, il y a la séparation des corps. Pour nous, bien sûr.
Si, parce que c'est par exemple, l'énergie solaire, tu la mets dans des batteries qui récupèrent l'énergie solaire, ils vont garder de l'énergie, même s'il fait
nuit,
l'électricité va marcher. Ils vont récupérer de la lumière, même s'il n'y a plus de soleil, il y aura comme cette lumière. Si demain il n'y a plus de soleil, mais que tu as récupéré la lumière du soleil dans des batteries qui récupèrent l'énergie solaire,
panneau photovoltaïque.
Voilà, tu vas pouvoir générer de la lumière après qu'il n'y ait plus de soleil.
Mais c'est issu du soleil. Voilà.
Oui, d'accord.
Mais sauf que, pourquoi on ne peut pas parler encore de création?
Il n'y a pas d'indépendance.
Merci. Tu mets dans ton truc, Yacob, il en est mon exemple.
Non, parce que à partir du moment où il n'y a plus de contact et qu'on arrive quand même à avoir un résidu, tu comprends.
Pas pour moi, les choses sont très claires. On voit le rayon du soleil, c'est pas le soleil.
Il faut pouvoir baisser son niveau de compréhension pour que tout le monde puisse comprendre.
Voilà, c'est ça.
Pour moi, le rayon du soleil, c'est pas le soleil, c'est évident. C'est une émanation du soleil. Donc il y a deux choses différentes. Ça n'a rien à voir.
Oh, mais l'élément déclencheur, c'est qu'il y en a un qui puisse exister sans l'autre.
Qu'il y en a un?
Qu'il y en a un qui puisse exister sans l'autre.
Pas du tout.
Ah si? Parce que s'il fait lui, je peux me servir de l'énergie solaire.
Non, pas du tout. C'est toi qui dis ça. Moi, j'ai pas dit, l'élément déclencheur, c'est pas forcément qu'un peut exister sans l'autre. Moi, je veux parler d'une création. Il y a une création et il y a une créature.
D'accord.
D'accord. Il y a la créature et il y a celui qui crée. Donc la première catégorie, c'était pas une créature, il a façonné. La deuxième catégorie, qu'est-ce qu'on a dit? On peut parler d'une création, puisqu'on a généré quelque chose de nouveau, mais c'est pas vraiment une création, parce que c'est pas que quelqu'un qui a voulu créer quelque chose, c'était automatique.
Ça a découlé, alors.
D'accord, ça a découlé. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui rayonne d'intelligence. Il a pas fait exprès, il est pas en train de... Ah oui, comme Yakov, tu comprends? Il est pas en train d'essayer de cibler, de montrer son intelligence. D'accord?
Pas le meilleur exemple.
Il brille. Bon. Donc, on peut toujours pas parler d'une création. On peut toujours pas parler d'une création ex nihilo.
On ne pourra jamais.
Mais d'accord.
C'est
toujours pas ex nihilo.
Qui vient du néant.
Ex nihilo, ça vient toujours pas du néant parce que d'abord ça vient pas du néant, numéro 1.
Parce que le néant c'est déjà quelque chose.
Oui. D'abord numéro 1, ça vient pas du néant, de le soleil. Et numéro 2, même si ça et numéro 2, comme on a dit, le soleil ne cherche pas à créer. Alors on va donner un troisième exemple. Il n'y a pas longtemps, c'était la fête de Pessah. C'est la fête de Pessah. Le septième jour de Pessah, je vis chez le Pessah, on a célébré la traversée de la mer Rouge. Oui, d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé à la traversée de la mer Rouge? La Torah nous dit clairement, c'est écrit que Dieu a fait souffler un vent très fort toute la nuit, et l'eau est restée comme une muraille des deux côtés. D'accord? C'est ce qui est écrit. Bon, le vent a soufflé, et il a formé une muraille à droite et à gauche. D'accord. Alors il y a une question que les Mefarchim me posent, je comprends pas. Il dit pourquoi Dieu avait besoin de souffler, de faire souffler le vent toute la nuit, et de maintenir maintenir l'eau en muraille. Il aurait pu faire un miracle plus simple. Il aurait pu faire un miracle que transformer en une fraction de seconde l'eau de la mer en glaçon ou en mur. D'accord? Combien de temps il aurait duré un miracle dans ce cas-là?
Le temps qu'il veut.
Non. Je répète ma question.
Ouais. C'est la même question pour dans l'hypercarbe.
Je répète pourquoi, ma question. Non. Écoutez bien ma question. Non. Écoutez bien la question. Combien de temps aurait duré le miracle?
Fraction de seconde. C'est quoi?
Si Dieu transforme l'eau en le mur. Combien de temps a duré le miracle?
Attends, une fraction de seconde.
Une fraction de seconde.
Et encore? On sait pas.
On est d'accord?
Même pas.
Pourquoi?
Même pas dans le temps.
Une fraction de seconde.
Oui, mais comme dans Dieu, il n'y a pas de notion.
Une fois que c'est devenu en mur, le mur, tu peux le toucher, c'est un mur, c'est fini. D'accord. Donc on n'est plus dans le miracle. Après, Dieu aurait fait un deuxième miracle pour transformer le mur en eau.
Regarde.
Donc si on devait calculer en énergie l'effort qu'Akadosh Baruch Hu doit faire. Là, il a fait un effort toute la nuit. Toute la nuit, il y a un vent énorme qui souffle et qui maintient l'eau en deux murailles. Et en même temps, les Bnei Israël, ils peuvent passer. D'accord? Moi, je trouve que l'effort n'est pas normal. Il aurait dû faire un effort plus simple. Il aurait dû faire un effort qui dure une fraction de seconde pour transformer l'eau en mur. Et un autre effort, dès que Jésus vient, il passe par derrière, pour transformer le mur en eau.
Et tu me dis que c'est pas fini. Pareil, c'est pas juste une impulsion. Tu l'aurais assuré.
Ah ben non, parce que Dieu, c'est écrit clairement dans la Shira, avant la Shira, c'est écrit que Dieu a fait souffler le vent très fort toute la nuit, et c'est le vent qui a fait tenir l'eau en muraille.
D'accord, oui, mais c'est juste impulsion, ça change pas, ça peut être juste impulsion.
C'est un miracle. Pourquoi Dieu a fait un miracle qui dure tellement de temps?
Il a voulu habiller son miracle
de la nature par un phénomène naturel.
Ça peut être juste un peu
soit pour nous apprendre quelque chose.
Excuse-moi, ça change pas. Moi, je crois pas ce que ça change. Il peut très bien donner l'impulsion de départ.
Oui.
Et le vent, il peut durer un jour, 10 jours, un an.
Oui, mais ça change pas que pour le spectateur, le miracle est constant.
Pour le spectateur, oui, mais pour Dieu, ça peut être...
J'ai l'habitude de donner, regarde, je donne cet exemple. Regarde, par exemple. Imagine-toi quelqu'un du préserve qui tombe d'une falaise. Du préserve. Il tombe d'une falaise.
Oui.
D'accord? Il tombe. D'accord? Il tombe. Et miracle, il arrive en bas, il s'en sort sain et sauf. Combien de temps? Attendez, écoutez bien.
Jusque-là, tout va bien.
Combien de temps a duré le miracle?
Jusque-là, tout va bien.
Combien de temps a duré le miracle?
Je crois. C'est un film, ça, non?
Eh oui! Vous voyez, c'est un piège. Vous savez, quand on réfléchit, la personne qui tombe dans la falaise. Il tombe dans la falaise. Il tombe. Et à un certain moment, normalement, il devait s'écraser. Et à ce moment-là, il y a un miracle et il s'écrase pas et il reste en vie. Combien de temps a duré le miracle? Une fraction de seconde. Parce que tant qu'il est dans les airs, il n'y a pas de danger dans les airs. À quel moment c'était le danger?
Quand
il devait avoir l'impact. D'accord? Donc quand il a échappé à l'impact, c'est bon. C'est là qu'il y a eu le miracle. Quand on réfléchit, on voit que dans la vie, même quand on voit des miracles, on voit très très peu de... Finalement, les miracles durent très très peu de temps. Et on passe le temps à se préparer au miracle et à analyser le miracle. Mais en vérité, le miracle dure très peu de temps. Le miracle, c'est une fraction de seconde. C'est un moment dans lequel Dieu change la donne. Tac. On est d'accord? Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on a traversé la mer Rouge, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait un miracle, tout simplement, que l'eau se transforme en muraille au début de la nuit, et à la fin de la nuit, la muraille en eau.
Il aurait transformé les éléments.
Mais c'est plus simple pour Dieu.
Mais c'est pas question de simple.
C'est plus simple pour Dieu de bloquer la nature, d'embêter la nature pendant deux fractions de seconde que de l'embêter toute la nuit. On n'a jamais vu dans la nature un vent qui a soufflé, un vent qui a soufflé, qui a fait tenir, qui a coupé la mer en deux, et que les gens pouvaient passer au milieu avec des arbres. Sans problème, c'est impossible.
Alors à ce moment-là, c'est quoi le miracle? Devant, tu dis pas que le miracle, c'est la fraction de seconde où il a poussé le vent.
Ben non, parce que ce miracle, il a continué, j'ai compris, mais par rapport au spectateur, à l'utilisateur final, comme ils disent, celui qui regarde, lui, il voit un miracle constant. C'est-à-dire que constamment, imagine-toi les petits gamins, ils sont là, tout le monde, en train de toucher, ils disent, mais attends, c'est pas possible, il y a un problème, ils touchent, c'est de l'eau, ils disent, non, c'est un glaçon peut-être, ils touchent, mais non, c'est mouillé, mais pourquoi ça tombe pas alors? et comme ça toute la nuit tu peux toucher, ça tombe pas. Ça devait les rendre fous. Tu comprends? Si Dieu fait un miracle, il y avait de l'eau, il y a un mur. Bon, on touche, ah il y a un mur, bon, Mazal Tov. Ah bon, il y avait, il n'y a plus. Mais là tu touches, c'est de l'eau, ça te rend fou. D'accord? Ça te rend fou. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle? Alors, c'est expliqué que Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle? Parce que il voulait nous montrer la force qu'il y avait dans Kriyat Yam Suf dans la traversée de la mer Rouge. Qu'au moment où on traversait la mer Rouge, on allait à l'encontre de la nature. Et Kadosh Baruch Hu voulait nous montrer que c'est pas simplement que je vous ai fait un petit miracle qui a duré quelques secondes et c'est tout. Kadosh Baruch Hu voulait nous montrer que tout ce miracle de la traversée de la mer Rouge, c'est un miracle qui va à l'encontre des lois de la nature. Et ça, tout le monde l'a vu. Personne peut dire qu'il l'a pas vu. Non, parce que sinon, tu vas dire, ah oui, il y avait un... Je te crois pas qu'il y avait un... Il n'y a jamais eu la mer ici. Il y a toujours eu ici un mur. Il n'y a jamais eu de mer ici. Vas-y, va lui raconter qu'il y avait un jour la mer. Là, tu la vois, tu la touches. Des miracles comme ça, on n'en voit jamais. Dans lesquels tu as les deux dimensions. En même temps, tu vois de l'eau, et en même temps, tu vois que tu peux... Elle tient.
Il voulait qu'on déguste.
Des miracles comme ça, on n'en voit pas. Ça, d'accord. Là on commence à arriver à un troisième exemple. Là c'est un bon exemple déjà. Là on peut parler d'une création. J'explique. Là on peut dire qu'il y a une création, qu'on a senti la force de Dieu qui a créé une nouvelle force qui n'est pas censée exister. Puisque normalement la nature c'est quoi? C'est que l'eau normalement elle doit tomber. Quand cette eau elle reste debout, on a senti qu'il y avait une force que Dieu a créée. Il y avait une force qu'on a senti le kohar, la force d'Akadosh Baruch Hu. Je vais donner encore un autre exemple. Un autre exemple qu'on va peut-être mieux comprendre. Imaginez-vous que je prends ce verre et je le jette en l'air. D'accord? Jusqu'à quand le verre va monter en haut?
Jusqu'à que la force.
D'accord? Voilà, je le jette, bon.
La force d'attraction, elle sera supérieure à la force
que t'as
donnée.
Ah, vas-y, dis-nous.
La force d'attraction sera supérieure à la force.
La force d'attraction, oui.
Elle sera supérieure à celle que j'ai donnée en.
Elle sera supérieure à la force
de
ma poussée.
De traction, voilà.
D'accord, donc moi je donne une poussée. Ah, c'est bon, c'est que c'est le principe, c'est un principe. Donc, moi, j'ai une poussée. Dès que l'attraction terrestre sera plus forte que ma poussée, ben, qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, l'objet va commencer à tomber. D'accord. Ça, c'est un exemple qu'on amène en Chassidout pour nous expliquer le concept du chidouche. Comment ça se fait que quand je jette le verre en l'air, le verre ne continue pas à monter? Pourquoi le verre, il cherche constamment à redescendre? Très simple. Parce que, il y a une notion de nature et de chidouche. Ne vous inquiétez pas, on reviendra David. Hein. Il y a une notion de nature et de chidouche. Oui ?
Elle tourne, ça tourne.
C'est bon, ça tourne là ? Non, je vous avais prévenu, c'est un peu plus compliqué ça. Hein, c'est bien. Alors. Alors, il y a une notion de nature et une notion de chidouche. La nature, c'est quoi ? C'est que je lâche le verre, qu'est-ce qui se passe avec le verre ?
Plus de force.
D'accord ? Tu vas faire un exemple aussi, tu vas essayer ?
Non, je vais voir
deux. Je vais voir si ça tombe. Il y a les clous, on voit.
On va rajouter de la gravité.
Qu'est-ce qui retombe en premier ?
L'eau, elle tombe, tu vois, c'est normal.
L'eau et le verre en même temps. C'est Einstein qui l'a dit. Ah oui, là, c'est...
Qu'est-ce qu'il a dit?
Si t'as un ascenseur qui tombe, et dans l'ascenseur, t'as une personne qui lâche son portefeuille dès que l'ascenseur commence à tomber.
Il monte.
L'ascenseur, il va tomber en premier.
Qu'est-ce qui va se passer?
Non, mais le portefeuille,
mais le portefeuille, qu'est-ce qui se passe avec le portefeuille? Le portefeuille, il monte, il reste au même niveau ou il tombe?
Il va monter.
Il monte.
Mais pas du tout.
Il monte.
Le portefeuille reste au même endroit.
Bien sûr.
Oui.
Non, mais je suis.
Tant que l'ascenseur il descend.
Tant que l'ascenseur il descend. Dès qu'il redescend, après, pac, là ça tombe. Oh. C'est Einstein qui a dit, enfin bon, ce qu'on m'a dit, le nom d'Einstein, hein, je...
Ouais, c'est Einstein. Il est
en train
de remettre en question.
Alors, pourquoi je vous dis Einstein? Parce qu'il y a 15 ans de cela, il y a eu la NASA ou je sais plus qui du gouvernement américain qui ont voulu tester plusieurs choses que Einstein avait dit. Et cette chose-là, ils l'ont testé. Ils ont testé en grandeur nature et ils ont vu que ce qu'il avait dit s'était accompli à 100%.
Bah oui, mais il a explosé leur truc là. Je sais pas quoi, ils voulaient faire un espèce de tunnel pour la... Mais il a explosé, je crois. Ils ont pas réussi à le faire.
Bon, alors, on revient à notre sujet. Donc je reprends l'exemple de mon verre. Allez, on va passer écarter le sujet.
Le truc d'accélérateur de... Je sais pas quoi, de
particules.
C'est ça.
Donc, je reprends l'exemple. J'ai dit qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la nature et le chidouche. Pourquoi le verre, si je le lâche, il tombe? Parce que la nature dit qu'il y a une traction terrestre et que ce verre doit tomber. D'accord. Quand je prends ce verre et je le jette en l'air, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit entre la nature du verre et moi qui ai envie d'innover quelque chose, de faire un ridouche. De dire, le verre, normalement, il doit tomber. Moi, je veux faire un ridouche, je veux que le verre, il monte. Alors, qu'est-ce qu'on explique en chassidoute? On explique, comme on dit, c'est très simple. On dit, quand tu veux innover quelque chose, ton innovation ne peut durer seulement tant que ta force est toujours là pour innover. Dès que ton innovation s'arrête, ça retombe. On le voit mamage dans le verre. Le verre, normalement, il doit tomber. D'accord? Moi, j'ai envie d'innover, je dis, maintenant, ce verre, j'ai pas envie qu'il tombe. J'ai envie qu'il va en l'eau. Qu'il va en l'air. Donc, je le jette en l'air. D'accord? Donc, je veux faire un ridouche. Tant que j'ai une force, j'ai ma force qui est là derrière, et qui génère le ridouche sera là. Ma balle ira en l'air. Le verre ira en l'air. Dès que mon ridouche s'arrête, qu'est-ce qui se passe? La balle retombe. Alors, pourquoi on explique ça en chassidoute? Pour expliquer que c'est très simple. De la même manière, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la création du monde, c'est un ridouche. Puisque la nature, par définition de toute créature, c'est de s'annuler à Kadosh Baruch Hu et de ne pas avoir un sentiment d'indépendance, d'existence se prend pour quelqu'un par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la nature. De la même manière que le verre, je le lâche, il devrait tomber. De la même manière, toute créature qui est créée, normalement, par définition, elle sait qu'elle vient d'un Kadosh Baruch Hu. Donc, elle peut pas vouloir être indépendante. Pour générer cette sensation d'indépendance, Akadosh Baruch Hu est obligé de la créer constamment. Et de la même manière qu'on a expliqué que dès que c'est une créature qui va à l'encontre de la nature, il faut toujours générer ce ridouche. Dès que j'arrête de générer le ridouche, qu'est-ce qui se passe? Ça revient à la source. Mais c'est exactement la même chose pour la création. On ne peut pas imaginer un seul instant que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'après ça s'arrête. Après il dit, bon, c'est maintenant, je laisse tourner. Mais non, s'il laisse tourner, ça retombe comme dans le verre. Parce que par définition...
Ah, c'est tombé là.
Parce que par définition, le fait qu'il y a un monde qui est créé avec une sensation d'indépendance, c'est contraire à la nature même d'une créature qui doit se sentir annulée à Kadosh Baruch Hu. Bon, on a dit beaucoup de notions.
C'est une création, là. Le naître de la création, ben ça c'est une création, c'est sûr.
Oui.
Mais le passage de la mer Rouge, il a juste transformé un état.
Non.
L'eau, elle a la gravité.
Non.
Parce qu'elle est liquide.
J'ai compris.
Maintenant, si je la brûle...
Il n'a pas transformé l'état de l'eau.
Elle change d'état.
J'ai compris. On aurait pu répondre comme toi, que Dieu a transformé l'état de l'eau, qu'il a fait que, par exemple, dorénavant, pour l'eau, il n'y a plus de traction terrestre. Pour l'eau de la mer Rouge, il n'y a plus de traction terrestre. Ils ont pu faire ça. Il n'a pas fait ça. Il y avait un vent qui soufflait. Ça veut dire qu'il y avait un combat, il y avait un ridouche constamment.
Oui,
il fallait...
Ça illustre ce qu'on
vient de dire. J'ai compris. Ça veut dire que Dieu voulait nous montrer le concept du ridouche. Ce que je vais illustrer avec ça, c'est la notion du ridouche. Que quand... Ce qu'on veut récupérer d'ici, c'est quoi? C'est la notion que pourquoi le vent avait besoin de souffler toute la nuit? Parce que le fait que l'eau tienne comme un mur, c'est un ridouche. Et donc le ridouche, tant que ton vent il souffle et qu'il maintient ce ridouche, eh ben ton eau va tenir. Dès que tu lâches le vent, l'eau retombe parce que c'est un ridouche. La nature de l'eau, c'est de tomber. Donc c'est pas parce qu'on a dit, bon, maintenant j'ai envie qu'elle se lève, qu'elle va se lever. Tant que tu la pousses, elle va se lever. Mais dès que tu arrêtes de la pousser, elle va s'arrêter. C'est comme une voiture. Mais si ça, tu comprends?
Si elle était bloquée
sans vent, là c'est...
Elle a utilisé quelque chose qui avait déjà été...
Le ridouche qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ici encore une fois. C'est parce qu'on voulait montrer que le miracle dure constamment, il ne s'arrête jamais. Alors que dans toutes les autres méthodes, le miracle s'arrête. Le miracle, je vous le ferai qu'une seconde. Là, le ridouche, c'était que tout le monde voyait le miracle. À chaque instant, même une personne qui n'avait pas vu au premier instant, il pouvait regarder le miracle. Il n'y avait pas de problème, touche l'eau. Vas-y, prends de l'eau, tu peux la boire si tu veux.
Le ridouche, c'est pas le phénomène, c'est la durée du phénomène.
Ben oui, c'est extraordinaire. Et là, on comprend bien ce que la Gemara Zaken veut dire ici. Que quand on a quand tu veux générer un ridouche, quelque chose de nouveau, tant que tu le génères, il est là, t'arrêtes de le générer, il revient à sa source. Donc on expliquera qu'il en est de même pour la création du monde. La création du monde, par définition, c'est un ridouche. Le fait qu'on peut avoir une créature qui peut avoir une sensation d'indépendance, de croire d'être indépendant par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un ridouche. Donc tant que ce ridouche est généré par Dieu, ça tient. Mais dès que le ridouche arrête d'être généré par Dieu, ça tient plus. Donc, ça va confirmer, conforter ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que le monde doit constamment être créé par un Kadosh Baruch Hu à chaque instant.
Donc c'est par sa parole alors.
Donc c'est par sa parole.
Le chidou, c'est
alors
la parole.
On va développer maintenant. Bon, ça c'est qu'une introduction. N'inquiétez pas. Si vous n'avez pas compris tous les détails, c'est pas grave. De toute façon, on va développer tout ça dans les mots. C'est important pour moi de faire une introduction qui est un peu longue, c'est vrai, avant de commencer. Veiné. Donc Ferengbet. Veiné.
Merci.
Mikan Shuvat Aminim. Avec ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent et ce qu'on a expliqué dans l'introduction. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu est présent à chaque instant et Akadosh Baruch Hu génère le monde à chaque instant. C'est comme ma balle. S'il n'y a pas ma force qui la génère et qui la jette en l'air, et bien ma balle va retomber. Avec ce qu'on a expliqué, on va comprendre Shuvat Aminim, une réponse contre les apostats. Vegilu Shoresh Taoutam, et on va dévoiler la base de leur erreur. C'est-à-dire que l'Admorazaké, il n'a pas peur. Les apostats, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas aux sages. Morazaké, il n'y a pas de problème, on va expliquer pourquoi ils sont trompés. C'est pas simplement on va dire, bon, c'est pas des croyants, c'est des imbéciles. Non, on va expliquer pourquoi ils sont trompés. Akofrim, Bajgara, Pratit, Uveotot, Uvmofte, Atora. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ces gens-là, ils renient Ashgara Pratit, ça veut dire la providence divine, de dire que par exemple, si quelque chose m'est arrivé à tel instant, alors que j'ai été créé à 30 ans, eh ben ça a été géré par un Kadosh Baruch Hu. Ces gens-là, ils ne croient pas, ils disent pas du tout. Ils disent, moi je crois que Dieu peut m'amener la vie, il peut m'amener la mort. D'accord? Mais une fois que je suis dans le circuit, je fais ce que je veux dans le circuit. Dieu, selon les Kofrim, selon les minimes, selon les apostats, Dieu a un contrôle seulement au début et à la fin du circuit. C'est comme une voiture, tu l'envoies dans un circuit. T'as un contrôle au début et à la fin, au milieu tu peux rien faire. Il se débrouille, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il dit les apostats. De la même manière, ils ne sont pas d'accord avec Otot ou Mofta Torah. Ils ne croient pas à tous les miracles qu'il y a dans la Torah. Bah oui, par définition, si tu ne crois pas à l'intervention de Dieu, donc la personne ne peut plus croire ni à la providence divine, dire que ça m'est arrivé parce que si, parce que ça. Donc il croit plus du tout. Donc du coup il croit plus ni dans les miracles ni dans les merveilles. Ça n'existe pas. Il dit pour moi, tout ce qui s'est passé dans la Torah, c'était des coïncidences naturelles. C'est ce qu'ils disent les Kofrim. D'accord? Et c'est pas des imbéciles.
Il n'y a pas de preuve que d'accord du contraire.
Exactement. C'est pas des imbéciles du tout même. Parce que ce qu'il dit, ça tient très bien la route. D'accord? On va devoir expliquer pourquoi, logiquement, ça tient pas la route. Alors Admorazaken dit, ces gens-là font deux erreurs. Deux grandes erreurs. La première erreur, c'est quoi? C'est que, pour analyser la création de Dieu, ils comparent la création de Dieu à une création humaine. Ça veut dire que quelle est leur référence? D'accord? Leur référence, c'est une création humaine. Pour comprendre comment Dieu a créé le monde, leur référence, c'est la création humaine. D'accord? Alors que l'homme lui-même est une création de Dieu. Donc c'est pas bon. Ça c'est la première erreur qu'on va développer. Deuxième erreur qu'ils font, qu'on va expliquer, c'est la différence qu'il y a entre l'artisan qui crée un ustensile et la lumière qui vient du soleil. Ça, on va expliquer. J'ai expliqué au début du cours, mais là, maintenant, on va expliquer comment même s'ils suivaient leurs bêtises, ils se sont trompés. C'est-à-dire, de toutes les façons, ils se sont trompés. Même s'ils suivaient leurs bêtises, dans leur logique, il y a une faille. Donc, on va développer la faille qui est, en vérité, ils les appellent ici les apostats, mais des gens comme ça, on en voit tous les jours. Des gens qui n'y croient pas. Je crois pas, moi je crois pas, pour moi je fais ce que je veux ici, etc. Donc ils ne croient pas ni à la providence divine, ni dans les miracles, ni dans les merveilles, ni dans la spécificité du peuple juif. Ils ne croient pas, ils croient pratiquement pas en Dieu. Enfin, ils croient en Dieu, mais ils croient en Dieu très lointain. Il a créé le monde et le jour où on devrait rendre compte, il sera là.
En même temps, tu peux pas leur en vouloir parce que. Non, mais ouais, Israël a cru en Dieu lorsqu'ils ont vu le Har Sinaï.
J'ai compris. Bon.
C'est quand ils ont vu de leurs yeux.
Maintenant, on va expliquer quelle est leur erreur.
Transmis.
D'accord.
Mais celui qui n'a pas vu.
Maintenant, la Admorat Zaken va expliquer comment, sans même passer par la Torah...
Il voit, c'est bon. Non, c'est tant que t'as pas vu...
La Admorat Zaken va expliquer... J'ai compris. Maintenant, on va devoir répondre à cette question.
Il croit pas. À partir du moment où tu vois, tu crois.
La Admorat Zaken va expliquer que sans même passer par la Torah, ces gens-là se trompent, ne serait-ce que par la logique.
Ça, c'est pas possible. D'accord. À mon avis, c'est pas possible.
Attends, on va voir.
Parce que...
Attends, on va voir.
Un argument. Lorsqu'il y a la personne qui a écrit le livre...
Mais attends deux secondes, d'abord deux secondes.
Avec Yves Coppens, il s'est dégonflé,
deux secondes. Il a pas vu passer. Alors attends, on va voir. Le problème numéro 1, pourquoi ces gens-là se trompent? Tout le monde est là? Zerah, t'as avec nous?
Is alright?
Voilà. Oui. C'est bon. Alors on prend, donc on est... Troisième ligne de Perek Bet. Chez Torim, au milieu de la ligne. Chez Torim, Bedimionam Akosev. Ces gens-là se trompent avec leur imagination qui les trompe. Chez Medamin, Maase Hashem, il compare la création de Dieu, Ose Shamaim Va'aretz, Dieu qui a créé le ciel et la terre, les Maase Enosh Vetarboulotav, à la création d'un homme. C'est-à-dire à ce qu'un homme peut créer, voilà, enfin, il peut façonner. Pourquoi ? Il explique à Morazaka dans quoi c'est une grande erreur et qu'ils ont rien compris. Qui ? Deux secondes. Non, on va développer dans les mots.
Juste pour le mot. Trois questions, que... Joseph.
Non, mais est-ce que c'est un rapport avec ce qu'il avait dit ? Parce qu'on a... Non, je veux juste savoir pourquoi on emploie Enoch maintenant.
Vas-y.
Est-ce que c'est un rapport Enoch est la catégorie humaine la plus basse.
Il y a une raison pourquoi on emploie celle-là. Juste celle-là. C'est juste pour ça.
L'homme, ouais, c'est Enoch, c'est
l'homme le plus bas.
C'est la créature.
Juste pour demander pourquoi...
Oui, oui.
C'est la même
image. C'est justement pour dire que... On parle du plus bas possible. D'accord ? Alors, il explique pourquoi c'est une erreur. Qui ? Kacher yetze letzoref keli. Là, vous allez voir, maintenant, on va reprendre toutes les notions que je vous ai expliquées dans l'introduction. On va les retrouver dans les mots de l'Admor Hazaken. Qui ? Kacher yetze letzoref keli. Lorsque un artisan va façonner un ustensile. Shuv en akeli tsarich lidat tzoref. L'ustensile n'a plus besoin de l'artisan. On est d'accord, ce que j'ai expliqué au début du cours. Qui af chez Yadav sous la côte Mimenu, que même si l'artisan n'a plus l'objet dans ses mains, veoler le bachouk, et l'objet, du coup, bah, il va se balader dans le marché, c'est-à-dire qu'il va changer de main, etc.
Son propre existence.
Akli kayam betavnito vetsalmo. L'ustensile continuera à exister dans la même forme et dans la même image. Mamash kasher Yadav midat soraf. Et il continuera exactement avec la même forme que l'artisan l'a laissé. Ça veut dire que l'ustensile n'a plus besoin de l'artisan. D'accord ? La preuve, c'est que tu prends l'ustensile, tu le prends 2 ans plus tard, si on a bien traité l'objet, il sera exactement au même état que l'artisan l'a laissé. Pourtant, l'artisan n'est plus là, ça fait 2 ans. Il est peut-être mort. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Donc
tu fais pas des bouteilles de verre, non ?
Hein ?
Poursuivez.
Ton sandwich, je suis sûr qu'il y aura.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Donc je reprends ce qu'on était en train de dire ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ustensile...
Je vois le nom qui est marqué dessus.
C'est quoi ? C'est Tetrapac qui font ça aussi ?
Non.
Ou ils font non, que les...
Ils font que les briques.
Alors... Mamash Kacher Yad Samida Atsoref. Donc, tu reviens, par exemple, cette bouteille, tu vois. Je la pose ici, je la laisse là. Je reviens dans 2 ans sans bouger, sans toucher à la salle. Elle aura peut-être un peu de saleté, je la nettoie. Je retrouve exactement la même bouteille comme elle était là. Pourtant, l'artisan qui l'a créé n'est plus là. L'usine est... Je sais pas où c'est façonné ça.
Pas du tout.
Hein ? C'est façonné où ces bouteilles ? En France ?
Il y a combien d'années ?
Oui, c'est pas bon.
D'accord ? Bon.
D'ailleurs, on retrouve dans les bateaux qui sont en bord de mer, on retrouve
des objets.
Des cargaisons de vin.
Ça tient bien, le vin. Donc, c'est quoi l'erreur que font ces gens-là ? Première erreur que font ces gens-là, c'est quoi ? C'est qu'ils comparent la création du ciel et de la terre à la création humaine. Or, dans la création humaine, ce qu'on voit, c'est que l'ustensile n'a pas besoin de celui qui l'a façonné. Tu peux revenir 2 ans plus tard, l'artisan n'est plus là, l'ustensile est toujours là. Car, medamin, asralim elu, de la même manière, ces imbéciles, ils comparent, mais ce chemin va arrêter, c'est la même chose. Tu as créé le ciel et la terre, il l'a créé, il l'a façonné, il peut revenir dans 5000 ans, il sera toujours là. Comme la bouteille. Ça, eux, ils disent. Vous prenez leur logique ? Ils disent, regarde, moi je prends un... Ça veut dire, il va te montrer, tu vois, l'exemple par l'exemple concret. Il va dire, regarde, tu vois la bouteille, je la prends, je la façonne, je la pose, reviens dans 1 an, elle sera toujours là. Eh ben, Dieu a fait la même chose, il a façonné le monde, et tu reviens dans, il revient dans 6000 ans, dans 10 000 ans, dans 10 milliards d'années, même si tu veux, le monde sera toujours là. Ouais. C'est ce qu'ils disent.
Oui, mais après,
cependant, où est l'erreur? Tach, merot enem. Leurs yeux ont été aveuglés. A Evdel Agadol, la grande différence, ils ne l'ont pas vu. La grande différence chez Ben Maase Enosh Vetarboulotav, entre la création d'un homme, chez où Yesh Miyesh, il dit, mais même si, suivez votre logique, oublions la Torah. D'accord ? Là, il dit, Utechazeshal, oublions la Torah. Vous comprenez pas qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas comparer une création humaine à une création de Dieu ? Parce que vous êtes bien d'accord que ce monde, il a démarré de quelque part. Donc il y a ex nihilo. Dans le langage de la Chassidut, ça s'appelle Yesh Mais Aïn, il y a eu un yesh, une existence qui est venue d'un néant. Moi, je veux comprendre comment ça s'est passé. D'accord ? Qui est venu de zéro, de rien. Moi, je veux comprendre comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu donnes comme exemple ? Qu'est-ce que tu donnes comme exemple ? Tu me donnes comme exemple la bouteille. Mais je dis, mais la bouteille, c'est un mauvais exemple. Puisque dans la bouteille, tu as pris quelque chose qui existait déjà, et tu l'as façonné pour en faire autre chose. Là, tu peux dire, tu as raison, qu'effectivement, la bouteille n'a pas besoin de l'artisan. Parce que l'artisan n'a fait que façonner. Ou façonner, ou même, tu sais quoi ? Il a pris du sable, il a fait une bouteille. Waouh ! Il n'y a rien à voir entre le sable et la bouteille. Mais ça ne change pas. Il a fait ce qu'on appelle yesh, miyesh. Il a créé une existence à partir de quelque chose déjà existant. Donc, on ne peut pas parler d'une création. C'est pas une vraie création. Alors que dans la création du ciel et de la terre, Akadosh Baruch Hu a créé Yesh Me'ain. Il a créé une existence à partir d'un néant. Donc, le premier problème qu'ils ont, c'est quoi ? C'est qu'ils comparent des choses qui sont incomparables.
Non, on a dit au départ qu'ils savent qu'il y a un créateur, ils savent que Dieu est là.
J'ai compris. La seule manière de répondre à cette question aurait été de trouver dans notre monde un exemple de quelque chose qui est créé ex nihilo.
Impossible.
Et là, tu pourrais dire, regarde.
Ça répond quand même pas à la question.
Deux secondes. Non, mais écoutez bien ce que je suis en train de dire. Deux secondes. Je suis en train de dire que y a l'erreur qu'ils font. Ces gens-là. C'est quoi l'erreur qu'ils font ? C'est ces gens-là vont te prouver de la nature. Tu te dis, regarde, tu vois bien. J'ai façonné une bouteille, je reviens dans 2000 ans, je suis toujours là. D'accord ? C'est pas une preuve. J'ai pas dit que moi j'ai des preuves comment s'est passée la création du monde. Ça, je l'ai jamais dit. J'ai pas dit que j'ai des preuves. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que ceux qui disent détenir des preuves que ça s'est pas passé comme ça, ils se trompent. Pourquoi ? Parce que leur référentiel est mauvais. Leur référentiel, c'est sur une créature déjà existante. C'est prendre une créature déjà existante et en faire une autre. Là, tu peux dire qu'effectivement, on peut dire que le créateur et la créature restent indépendants. Parce que ça, l'argument que je suis en train de vous dire ici, c'est un argument qui est très répandu dans les livres de Hakira. Dans les livres des gens qui cherchent les problèmes. C'est un argument qui est très répandu. Il dit, voilà, tu vois, il a créé, comme moi je façonne une bouteille, et la bouteille reste là. C'est un argument qui est très répandu. Comme Razaken dit, l'argument ne peut pas tenir debout. Non pas que j'ai un autre argument à te proposer. Logique. Parce qu'on n'a pas de preuve de la création du monde, que la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Preuve, on n'en a pas. Mais au moins, j'ai une preuve que tu te plantes. Pourquoi ? Parce que ton référentiel est mauvais. Donc si ton référentiel est mauvais, ton calcul est zéro. Vous suivez ?
Non.
Tu prends une plante et il ne rose pas.
Oui. Alors, c'est la même chose.
C'est l'inverse de ce qu'il dit.
Non.
C'est contradictoire ce qu'il dit. Parce que ça montre bien que si une plante a besoin d'un entretien, qu'un premier, les êtres humains, ils ont besoin encore plus.
Oui, c'est l'entretien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais il te donne un exemple. Oui. Le problème, c'est que la plante te montre qu'elle a besoin de son créateur. Non ? Nous, on ne montre pas qu'on a besoin de Dieu. Il dit, moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je me débrouille. Ah oui, c'est ça le problème.
Encore ?
Moi, je me débrouille tout seul, je n'ai besoin de personne. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Hein ?
Alors,
Admor Azaken dit, il n'y a pas de problème. Tu veux pas croire en Dieu, ne crois pas en Dieu. C'est ce que tu veux. Mais ne me sors pas des preuves bidons.
Non, mais là, on parle de.
Tu veux pas croire, ne crois pas. Il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Mais ne sors pas des preuves bidons, c'est une preuve qui tient pas la route. D'accord.
Aujourd'hui, c'est la plus évolution. Bien sûr, ils disent c'est le Big Bang, c'est le machin.
Les scientifiques, ils vont pas dire ça. Il n'y a pas de notion de Dieu ou de pas Dieu.
Pas Dieu. Pour eux, il n'y a même pas de
notion de Dieu. Ils essaient de trouver la preuve. Et comme ils n'ont pas de preuve, on cherche le Big Bang. Au-delà, on ne sait pas.
Et bon.
On cherche, on ne sait pas.
Ne pas connaître la réponse, ça ne me dérange pas.
C'est ça qu'ils disent.
Mais dire du pipeau, ça, c'est pas bon.
Mais ils se font du pipeau, il n'y a personne qui
dit. Ah ben si.
Eux, ils se disent.
T'as des gens qui te disent. Attends, excuse-moi. T'as des gens qui te disent, pour nous, le monde est indépendant, Dieu ne s'occupe pas de son monde.
C'est autre chose. C'est deux problèmes
différents. Moi, je parle des coprimes, scientifiques.
Non, c'est un autre problème. La Hagar principe, c'est autre chose. Que tu peux dire que Hachem, il a créé un monde avec des règles et qu'ensuite, il a laissé les créatures se débrouiller.
Oui.
Ça tient la route, ça.
Ça tient la route. Mais tu peux pas donner une preuve. Il n'y a pas de preuve de ça.
Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de
preuve
du contraire.
Il n'y a pas de preuve du contraire non plus. Il n'y a aucune preuve. Donc ne dis pas qu'il y a une preuve. C'est ce qu'on veut te dire. David, ça ne te dérange pas si je fais de l'eau dans.
De l'eau, oui.
Ouais, si c'est possible. Il doit en avoir.
Moi, je me rappelle très bien, il nous a raconté le rave, je ne sais pas comment, le rave. Il est venu pour présenter un livre ici. Il était invité à la télévision avec Yves Copin, qui est un scientifique. Il s'est dégonflé. Il a écrit au rabbi. Il a dit voilà, je vais passer à la télévision. Franchement, je vais partir dans la route, il va me casser en deux, le scientifique. Le rabbi a dit effectivement, il a dit, il a écrit un mot, il a dit, tu poseras trois questions et demande-moi s'il peut avoir une réponse. Il a dit effectivement, sur les trois questions que vous posez, j'ai pas de réponse. Mais le gars, il a pas été devant lui à la télé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas démontrer ni l'un ni l'autre.
Mais
Bon. Et d'ailleurs, le Rav Dinovitz, il a écrit un livre là-dessus. Il a expliqué que ça, ce qu'on dit là, y croire, c'est un problème de Emouna. Et la Emouna, comment elle se nourrit? Elle se nourrit avec la partie de l'âme qui est liée à la Emouna. Et comment elle se nourrit? En faisant les mitzvot qui sont des Hukim. Mm-hmm. C'est avec ça qu'on peut acquérir ça.
Oui.
Donc, à quoi ça, les Hukim? Ça sert à avoir de l'énergie pour la partie d'un Neshama, de la Emouna.
Donc, en tout cas, ce que veut dire Amorazaken ici, Amorazaken, ce qu'il veut dire ici, c'est que la preuve que donnent ces imbéciles n'est pas une bonne preuve. Pas de problème, dis ce que tu veux, tu peux pas croire en Dieu, ne crois pas en Dieu, mais ne raconte pas des preuves bidons. Ta preuve ne tient pas la route, ton référentiel n'est pas bon, donc ta preuve n'est pas bonne. Pour expliquer ce qui s'est passé à la création du monde, tu me donnes un exemple de ce qui s'est passé après. Alors je vais te donner un exemple quand même. Razak, papa.
Il devient tunisien, vas-y.
C'est Yves de Leterrier.
C'est le référentiel.
Référentiel.
C'est Roland Garros, c'est pour ça.
Ça, c'est pour Lionel.
C'est Roland Garros, c'est pour
ça. Il n'y avait qu'une bouteille, il y avait un pour rationner.
Il n'y avait qu'une bouteille, mais il n'y avait qu'un verre.
Après, il y avait qu'une
bouteille. Un verre.
Yves
Je
sais pas
moi.
Tu l'as étroit. Ah bah oui, il fait chaud. Priez.
Puis demain, il y a moins
pour qu'il y ait la clim, parce que pour l'instant, il n'y a rien.
Pour qu'il baisse le devis surtout.
Non, j'ai pas de devis encore. Non, il a pas trouvé la panne encore.
Il a pas trouvé la panne.
C'est une panne, c'est pas à refaire. C'est une panne à trouver, c'est tout.
Ah oui.
C'est souris qui est passé dans le coup.
C'est possible.
Il va revenir. Non,
c'est pas si drôle.
On va revenir à 3. On va passer une journée. Bon.
Ah, je garde un petit.
Donc, je reprends. Donc, tu dis la Demorazaken, la preuve n'est pas bonne. Puisque le référentiel n'est pas bon. Ça veut dire, quand je vais analyser ce qui s'est passé à l'instant T, au premier instant où le monde a été créé, qu'est-ce que je vais donner comme preuve? Je dis, regarde l'évolution. Vous savez comment le monde a évolué? Mais je dis, remarque, ça ne change rien ton évolution. Parce que ton évolution, c'est du yesh miyesh. On a pris quelque chose déjà existant, et on a modifié autre chose déjà existant. C'est pas ça ce que je veux, moi. Moi, je veux yesh mi'ayin. Trouve-le-moi ce yesh mi'ayin. Là, ils vont essayer de chercher Big Bang, je sais pas quoi, tous ces bêtises-là. Bon. Alors.
Big Bang, c'est pas une bêtise, c'est Bereshit. Hein.
Non, mais le Big Bang est expliqué par le Tim Tsum, surtout.
Oui, c'est Tim Tsum.
Bon. Voilà,
ce qu'on a dit, hein.
Oui, si tu veux, on peut dire ce qu'on. Contredit rien du tout.
Alors on dit
l'admorazaken, art, donc rak chez Meshane Atsura Vatmuna, que l'artisan finalement il va rien créer. Il va simplement changer la forme et l'image. La forme, ça veut dire quelle forme ça aura. D'accord, je vais le façonner. Et l'image, ça veut dire que je prends du sable, je vais créer du verre. Donc c'est le look que ça aura. D'accord, il n'y a pas de problème. Mitmuna Tratirat Kesef, Mitmuna Tkeli, par exemple, tu lui donnes un morceau d'argent et il te fait avec ça. Un ustensile. Je dis waouh, je lui donnais un morceau d'argent, donne un ustensile. D'accord.
Et de rien.
Eux, ils comparent ça à quoi? Ils comparent ça à les maasé shamaim va arrête. Shouyesh me'ain. Ils comparent ça à la création du ciel et de la terre, que ça c'est ex nihilo. Donc par définition, on leur dit, vous n'avez pas de référentiel, votre référentiel n'est pas bon. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé à la création du monde, vous prenez comme référence des choses qui se sont passées une fois que le monde a déjà été créé et qu'on a modifié d'une créature à une autre créature. Ça, c'est facile, ça. On peut le faire, ça. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la création du monde. Ça, personne n'a une réponse. Il y a une preuve ni pour un côté ni pour un autre. J'ai l'habitude de dire toujours, Rav Nissan Nemanov, le Rosh Yeshiva l'ancien Rosh Yeshiva, Alav Shalom, la Yeshiva de Brunois, il avait l'habitude de dire, il faut remercier Akadosh Baruch Hu qui n'a pas créé de preuve qu'il n'existe pas.
Ça aurait été mis en plus encore de...
Là, on n'a pas de preuve qu'il existe. Chaque preuve que tu vas me donner qu'il existe...
T'as pas de preuve qu'il n'existe pas.
T'as pas de preuve qu'il existe. C'est-à-dire, bon, bien sûr, on voit des signes, mais bon, les signes, t'as... les mêmes signes que toi tu vois, un autre, il va se moquer de tes signes.
Et c'est... Il n'aurait pas pu le faire, c'est impossible.
Bien sûr qu'il aurait pu.
Non, mensonge.
Ben bien sûr. S'il nous a donné un sentiment d'indépendance alors qu'en vérité on n'est pas indépendant.
Ah, c'est pas une preuve.
Mais on a le sentiment.
Il aurait pu s'il voulait.
Il a donné le sentiment d'indépendance.
Voilà. Donc s'il voulait, il aurait pu.
Mais c'est pas une preuve.
Il aurait pu.
C'est pas une preuve.
Imagine-toi, il y a une preuve absolue que ça n'existe pas.
Mais il peut pas créer une preuve.
Par exemple, c'est écrit un truc dans la Torah et dans le monde on découvre le contraire. Ça.
Ouais, mais ça
tu fais quoi? Non,
tu peux pas être en Torah et mettre.
Ah non.
C'est un
mec. Non, pas du tout. Ah non, ça remet un tout en cause.
Nous, ça remet...
Si t'as une vérité absolue dans la Torah qui est remise en cause, ça remet tout en cause.
S'il trouve un...
Par exemple, le carbone 14, c'est un gros problème.
Non, encore une fois, on se base sur Yesh-Mi-Yesh, encore une fois.
Pareil. On va refaire la théorie du carbone 14. Alors, tu te bases sur ton contrôle. Une natation qui a pris la création.
Le monde a été créé vieux, de toute façon.
Non, c'est pas ça. Il y a des formations.
Qu'est-ce qu'on en sait de la déformation du monde il y a 1000 ans?
Il y a 1000 ans, on a déjà des preuves écrites. On a
mais attends une seconde. Mais est-ce qu'on a suivi la déformation du monde depuis 1000 ans jusqu'à aujourd'hui?
Ouais, un petit peu.
On parle de la
déformation du monde.
La déformation des océans, par exemple.
Ouais. On sait, non?
On sait? Dernier 1000 ans?
Depuis 1000 ans?
Oui,
1000 ans. C'est rien 1000 ans?
C'est rien 1000 ans? Vas-y, trouve-moi.
Je pensais, bien sûr.
Non, est-ce que tu es capable de dire un chiffre exact pour arriver?
La dérive des continents, ça est calculé.
D'accord. Mais est-ce que tu es capable de donner des chiffres exacts?
C'est pas.
Non mais 1000 ans, mais tu crois qu'ils bougent pas les continents là?
Ils bougent tout le temps. Non mais l'évolution.
La déformation.
C'est 1500 ans entre Bering. Bering, quand les deux continents ils se sont séparés.
Entre le 3
du Maroc.
Non, j'ai pas le Maroc.
C'est comme
non, mais Bering.
Bon, allez.
Les Chinois ils sont passés en
Amérique. C'est beaucoup plus de 1500 ans.
Donc dis, la de Morazaken, Vehu. Bon.
Beaucoup plus de 2000 ans.
Il y a pas, c'est pas un référentiel. Le référentiel n'est pas bon. En tout cas, ce référentiel ne peut pas nous aider à comprendre quand le monde a été créé et comment ça s'est passé. Puisque tous les référentiels qu'on a, c'est des référentiels d'existant à existant. Alors que la création du monde, c'est néant à existence. Donc le référentiel n'est pas bon. Donc par définition, on peut pas trouver la réponse. Ah oui, on cherche quelque chose qu'on n'a aucun référentiel.
Non, c'est la partie justement.
Non,
c'est la partie.
Sans même toucher à la Torah là.
C'est la partie avant le Big Bang. C'est cette partie avant le Big Bang.
Pour les scientifiques, le monde il a plusieurs milliards d'années. Alors que le 44.
Alors monte, tu sais quoi, monte à des milliards de milliards d'années. Il y a pas de problème. Mais moi je veux que tu m'expliques le premier instant. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais ils disent pas qu'ils savent.
Ah voilà.
Ils sont sûrs par contre que le monde il a pas.
D'où tu sais? Comment, puisque tu sais pas comment le monde était au premier instant. Alors comment tu peux dire, ça fait combien de temps qu'il existe?
Oui, mais d'accord.
Bah oui.
Tu sais pas depuis combien de temps il existe.
Excuse-moi. Pour être capable, écoute bien ma question. Pour être capable de répondre, d'expliquer le développement du monde, d'accord? Il faut d'abord savoir comment le monde était à l'instant zéro.
Pas du tout.
Bah oui. Parce que tu as aucune idée comment le monde a démarré.
C'est pas le problème.
Mais bien sûr.
Le problème, c'est qu'il est marqué dans la Torah 5570.
C'est célèbre.
Je te donne un exemple.
Et que tu peux démontrer que le monde, il a démarré depuis avant.
Non, il n'y a pas de problème.
Donc le problème, c'est bien, tant mieux. Mais moi, je cherche une réponse. Le Rav Menaché devait faire un cours là-dessus. Je dis, je l'ai tanné, toi. Je dis, mais faites le cours. Il n'a jamais fait. C'est un gros problème.
Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de preuve. Il y aura que des preuves que le monde, il a démarré avant.
Mais quelle preuve tu as?
Parce que c'est
5000 ans,
mais tu plaisantes ou quoi?
Il peut pas. Mais c'est quoi ton texte sur
remet en cause?
Quelle preuve?
5000 ans, c'est rien, il y a des poteries chinoises déjà, il y a 5000 ans.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
On pourrait presque remonter de génération en génération.
Comment tu sais que ça a fait 5000 ans? Parce que t'as le carbone 14.
Ça veut dire que les dinosaures, ils n'ont jamais existé.
Mais tu sais que c'est fiable, le carbone 14.
Pourquoi?
Bon, allez, on y
va. Le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Le rabbi, il a dit, vous avez qu'à imaginer que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde vieux. Toi qui as un problème.
Maintenant,
imagine-toi qu'il a créé le monde vieux. Hein. Il a créé un monde avec déjà des cadavres de dinosaures.
Mais il a bien créé.
Non.
Mais scientifiquement, ça tient pas la route.
Non.
Si tu fais, si tu prends la.
C'est pas ça le monde vieux. Pas ça le monde vieux. Le monde vieux, c'est pour dire qu'on ne sait pas, le monde. On connaît pas l'instant zéro.
Ouais, oui, ils sont passés les dinosaures en plus.
Je te pose la question.
Où ils sont passés les dinosaures?
Ils étaient où? Ils étaient les dinosaures.
Et le roi lion, il est où?
Il y a pas de dinosaures.
Le roi lion, il était où?
Le roi lion, il est où? On l'a pas vu.
C'est ça, donc il y avait déjà des cadavres de mammouths, etc.
Comment?
Il y a déjà des cadavres de dinosaures, etc.
Pas du tout,
alors. Qu'est-ce qu'on sait, hein?
Ça fait partie des caractéristiques. Pas du tout, c'était
bon. Oh oui ou non? J'en sais rien.
Mais alors, combien même il était là, il y a ce cassinant? Tu étais là,
même. Même, regarde.
Regardez.
La datation, elle est faite au carbone 14, qui te dit que la géologie d'il y a 5000 ans, c'est la même chose.
Je vais vous donner un exemple. Bon, on va s'arrêter dans pas longtemps, parce que sinon après, je vais vous donner un exemple. Pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, après, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, mais il faut qu'on reste dans le sujet.
Non, mais il nous dérive.
Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je donne un exemple. La Barbanel, il pose la question. Écoutez bien la question de la Barbanel. Barbanel, on dit que Akadosh Baruch Hu, en l'an 1600, il a amené le Maboul, il a amené le déluge. Non, mais il a raison, il a pas perdu le fil.
Ça a tout changé.
Écoutez le Abarbanel, ce qu'il dit. Non, c'est la même direction. Abarbanel, il dit, c'est écrit dans le Chumash que Akadosh Baruch Hu, en l'an 1600, il y a eu le déluge, et qu'après le déluge, Akadosh Baruch Hu a dit, dorénavant, je n'amènerai plus le déluge. D'accord ? Et chaque fois que je serai énervé contre vous et que normalement, j'aurais dû amener le déluge, qu'est-ce qu'il montrera ? Il montrera un arc-en-ciel. D'accord. Donc l'arc-en-ciel, c'est une créature qui a commencé en l'an 1600. Oui. Si on comprend bien le verset. Alors la Barmanelle pose une question très simple, il dit, mais je comprends pas.
Il n'y avait pas de soleil avant ?
Il dit, mais c'est pas possible, l'arc-en-ciel c'est un phénomène naturel. Tu prends avec, comme il dit, tu prends avec un verre d'eau, tu fais l'arc-en-ciel. Comment c'est possible de dire que l'arc-en-ciel est écrit en l'an 1600 ? Non. C'est écrit. Non, c'est pas écrit. Dieu il dit, et cachti natati be'anan, dorénavant je mettrai l'arc-en-ciel, et c'est ça. D'accord ? Ah non, pas du tout. Non, Rachid dit clairement, il dit que c'est pas un signe, c'est pas que Dieu a dit, je vais utiliser un phénomène déjà existant pour vous montrer. Il a créé ce phénomène. Donc, à Barvanel, beaucoup de fois que je pose la question. Alors comment c'est possible ? Alors, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses que Barvanel il donne, c'est une réponse très simple. Il dit que l'air du monde, à l'époque, était beaucoup plus pur que l'air d'aujourd'hui. Non, pardon, était moins pur que ce qu'il y avait aujourd'hui, était plus épais. Or, on sait que si vous essayez de faire l'arc-en-ciel dans un verre qui est sale, est-ce que vous allez réussir ? Vous n'allez pas réussir. Pour faire un arc-en-ciel, il faut avoir un verre qui est propre. Il ne faut pas que ce soit épais. Et donc, il dit, on sait que lorsque Kadosh Baruch Hu a fait le Maboul, le Zohar dit que le Maboul, ça a purifié le monde. Il dit, ça a purifié pas seulement spirituellement, ça a purifié aussi matériellement, que l'air était plus pur. Comme l'air était plus pur, c'est ce qui explique pourquoi physiquement, c'est seulement à partir de l'an 1600 qu'on a eu le Maboul. Là, on vient d'avoir un exemple d'un élément qui a changé. Et si on ne te le dit pas, il y a une structure qui a changé. Voilà, on sait, par exemple, le monde est plus pur à partir de l'an 1600. Et comment il était avant? Et comment le monde, comment il était avant? J'ai aucune idée! J'ai strictement aucune idée. D'accord ?
Abraham, il n'est pas dans la neige. Excuse-moi. Abraham, c'est à l'époque d'Abraham, il fait chaud.
Non, mais c'est après déluge.
Après déluge.
Il n'y a pas beaucoup de temps.
L'air glaciaire.
Après déluge.
Il n'y a pas beaucoup de temps.
Non, j'ai pas parlé de froid et de chaud. J'ai parlé de la pureté de l'air.
Mais si on a changé de conditions géologiques, ou même atmosphériques, Comment tu peux utiliser le carbone 14?
Il a dû rester un peu.
Ou des références.
Alors, il n'y a preuve ni d'un côté ni de l'autre.
Moi, je vais te donner ma preuve. Tu vois, c'est que tu vas voir dans les scientifiques le plus haut niveau que tu puisses trouver. Tu vas trouver le même pourcentage de gens qui sont religieux et qui ne sont pas religieux. Alors il y a un problème.
Il y a un problème.
Tu vois bien que c'est pas une question de
parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un référentiel existant.
C'est pas vrai.
Bien sûr,
ceux qui sont pas religieux disent le contraire. C'est plus facile de vivre dans un monde où tu crois qu'il y a Dieu, etc.
J'ai compris, oui.
Donc, tu prends des scientifiques de haut niveau, tu as le même pourcentage de gens qui sont religieux et pas religieux. Donc ça veut dire que c'est pas une question de connaissance.
Non, il devrait rien avoir.
Question de émouna.
Oui, mais il y a pas de preuve, c'est ce que je veux dire.
Il y a pas de preuve.
D'accord, pas de preuve. Il y a pas de preuve. C'est tout ce que je veux dire, non, d'accord. Bon.
Simplement parce que statistiquement.
Alors, on peut pas être. S'il y a pas de preuve, tu peux pas être kofer. C'est quoi un kofer? C'est quelqu'un qui renie. Pour renier, il faut avoir des preuves.
C'est ce que je te dis.
D'accord. Donc ces gens-là, ils renient. Ils disent, moi, j'ai des preuves du contraire. Morazakin dit ta preuve ne tient pas debout. Tu veux pas croire, ne crois pas, y a pas de problème. Mais ne me sors pas des preuves qui tiennent pas.
On s'en fiche, je passe.
Non, on s'en fout pas.
Messieurs, allez, on y va. Ça suffit. Véhou Pélé, messieurs.
Ça
suffit, les fois, s'il vous plaît. Allez, on avance. Véhou Pélé Gadol, messieurs, s'il vous plaît. Les questions, c'est après le cours. Allez, un peu plus, il faut qu'on avance un petit peu là. Véhou Pélé Gadol, Yoter, Mikreatiem, Souf, Al-Derech, Machal, Sholir, Hachem, Etayam, Beruar, Kadim, Azak, Olalav, et Baku, Amaï. Il dit que quand on réfléchit, la création du monde, dans laquelle Akadosh Baruch Hu a transformé le néant ex nihilo, c'est-à-dire qu'il a de rien il a créé quelque chose, c'est un miracle encore plus fort que le miracle qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge. Que même la traversée de la mer Rouge, qui nous paraît un miracle extraordinaire, un miracle exceptionnel, mais finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris quelque chose qui était déjà existant, d'accord, et il l'a maintenu, c'est-à-dire il y a eu une force qui a maintenu cette chose déjà existante dans une autre position. Mais ça ne change pas que c'est toujours de l'existant sur de l'existant.
On a dit tout à l'heure.
Deux secondes. Ça veut dire que bien que le miracle était constant, et qu'Akadosh Baruch Hu voulait que le miracle soit visible, il n'y a pas de problème, le miracle était constant. Mais ça ne change pas que, pourquoi c'est pas un référentiel, puisque c'était de l'existant sur de l'existant. On a pris du vent, on a pris de l'eau, on a pris des choses qu'on connaît. Donc là, c'est facile à analyser. Quand c'est des choses qu'on connaît, tu peux analyser, tu peux dire, ça je crois, ça je crois pas. Mais quand tu dois analyser un phénomène qui s'est passé que tu, par définition, tu ne peux pas connaître, puisque moi-même je suis une créature, donc je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire être créé, puisque moi-même je suis une créature. Venitz vous que mon être m'a veilu ifsi kachem. Ça, je vais rappeler ce qu'on a expliqué à l'oral. Et taruar kerega, Ayu amaim chozri menigari vemorat kedarkam vetivam velo kamu kechomam plisafek. Av sheateva azeh bemaim gamken nivra umechudesh main. Sharei chomat avani nitsevet me'atzma blikoach rak sheateva amaim enoken. D'accord. Donc, Admor Hazaken dit, si déjà ces gens-là avaient voulu prendre un bon exemple, l'exemple qu'ils auraient dû donner, c'est pas l'exemple d'un artisan qui crée un ustensile. C'est peut-être l'exemple de la mer. Qu'on voit que dans la mer, Kadosh Baruch Hu, mais même ça c'est un mauvais exemple. Parce que là, dans la mer, on voit clairement qu'il y a un concept de création, c'est-à-dire qu'il y a une force contre une autre force. Donc on pourrait dire que Kadosh Baruch Hu a lancé un phénomène et qu'après ça a continué comme ça. Mais encore une fois, Admor Hazaken dit que quoi qu'il en soit, le référentiel n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'analyser quelque chose sur lequel on n'a aucune manière d'analyser ce qui s'est passé. Parce que par définition, nous-mêmes nous sommes créés. Et le cerveau qu'on utilise pour réfléchir est lui-même une créature. Tu comprends? La manière de réfléchir, le fait que 1 plus 1 est égal à 2, c'est-à-dire ce qui me paraît logique et ce qui me paraît illogique, ça même c'est une création. Alors comment tu vas aller comprendre comment la création s'est passée? C'est impossible. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment on explique en chassidoute, ça on l'expliquera dans la suite, que par définition, un ivra peut pas comprendre son boré. Une créature ne peut pas comprendre son créateur quand c'est une vraie créature. Impossible. S'il a façonné, là je peux comprendre. Oui, j'étais comme ça, tu m'as fait comme ça, parce qu'on était deux entités séparées. D'accord ? On ne pourra jamais comprendre la Kadosh Baruch Hu. Comprendre ? On pourra jamais comprendre la Kadosh Baruch Hu. Parce que par définition, on ne peut pas. Parce que notre propre cerveau qui nous permet d'analyser, lui-même, c'est une créature. C'est-à-dire qu'on est manipulé à 100%.
Mais c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas de comprendre notre créateur.
Oui, on essaie de comprendre notre mission. D'accord ? Et de comprendre ce qu'il attend de nous. Mais de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Et qu'est-ce
qu'il veut. Rabbeinu, il a pas eu la réponse.
Bien sûr, il a pas eu la réponse. Le Chol Sheken de Kal Vachomer, à plus forte raison. Le Chol Sheken de Kal Vachomer, voilà, on fait encore quelques lignes, puisque j'explique à l'oral tout ça. Le Chol Sheken de Kal Vachomer, Bivriyat Yeshmi Aïn Sheou Lemala Mateva, à plus forte raison pour la création du monde, que c'est plus haut que la nature. Et tu vois, monsieur le coffer, celui qui est le renégat, tu as vu ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge, est-ce que ça te paraît être un miracle? Ah oui, bien sûr, c'est extraordinaire, t'as vu? Il y a du vent qui a soufflé, qui a maintenu pendant des heures et des heures. Ça te paraît un miracle, mais c'est encore plus fort la création du monde. Chez il est mal à Meateva, parce qu'on a pris quelque chose qui était plus haut que la nature, et on a créé la nature, c'est une création. Afle va fele, yoter mi kreatiem souf. C'est encore un plus grand chidouche, une plus grande nouveauté. Parce que, encore une fois, selon l'Admor Hazaken, quand on veut analyser la création, il faut se baser sur le chidouche. Est-ce que vous me suivez? Si tu veux savoir c'est quoi une création, sur quel facteur il faut se concentrer, il faut se concentrer sur le facteur chidouche. Quelle est la nouveauté? Prendre un élément, le façonner, le donner une autre forme, c'est une petite nouveauté. Tu veux déjà une belle nouveauté? La traversée de la mer Rouge. Le vent qui souffle, on arrive à passer et pourtant ça fait tenir, ça coupe la mer en deux. C'est une nouveauté, mais c'est pas une très grande nouveauté parce qu'on a pris des éléments existants. C'est quoi la plus grande nouveauté, le plus grand chidouche qui puisse exister? C'est quand tu prends rien et de rien tu crées quelque chose. Ça c'est du jamais vu. Par définition, le cerveau ne peut pas comprendre comment c'est possible de rien créer quelque chose. C'est impossible. Il faut toujours un élément de départ. Tu peux pas créer à partir de rien. Le chidouche est extraordinaire. Ça veut dire que là, avec ça, l'Admor Hazaken veut dire à ces gens-là, il leur dit, quand on veut comprendre la création du monde, on doit comprendre, on ne doit pas analyser par rapport à ce qu'on connaît. On doit essayer d'analyser quel est le chidouche. Et c'est évident pour toute personne qui réfléchit que le chidouche de la création du monde est énorme, extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le chidouche que nous, on peut faire quand on va façonner une bouteille ou quand il y aura d'autres petits miracles qu'on va voir. C'est un grand, grand, grand chidouche. Donc, or, je reprends, monsieur David, l'exemple du verre de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a vu? Je jette le verre en l'air. La nature du verre, c'est de tomber. D'accord? Je décide que moi, ce verre, je veux qu'il va en l'air. Donc, je le jette. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Je veux faire un chidouche. Je veux faire c'est une petite nouveauté, ça, c'est walou, c'est rien du tout comme nouveauté. Je jette mon verre. Je veux faire un chidouche. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ma force est plus forte que l'attraction, le chidouche est là. Dès que ma force s'arrête, le chidouche s'arrête. Là, c'est le meilleur exemple possible pour comprendre que le plus grand chidouche possible, c'est la création du monde. Puisque la Kadosh Baruch Hu dans la création du monde, c'est pas une force contre une autre force. C'est carrément, on va créer une force. Il n'y a pas un plus grand chidouche possible que ça. À plus forte raison que pour ce chidouche qui est le plus grand chidouche possible, c'est sûr qu'il doit avoir une force constante qui est derrière. Ça veut dire que l'Admor Hazaken, pour prouver ça, il a utilisé les règles de la nature. Sans toucher à la Torah. Après, dans ce chapitre-là, on n'a pas touché à la Torah. C'est après, la semaine prochaine, qu'on verra l'approche de la Torah par rapport à ça. Là, la Gemara Zaken n'a pas touché à la Torah. Là, il a pris simplement des phénomènes logiques, des phénomènes naturels. C'est-à-dire, naturellement, tu vois que quand tu veux aller à l'encontre de la nature, il faut une force qui génère ça. Donc, ça veut dire qu'on doit analyser en termes de ridouche. Pour un petit ridouche, que ce verre, au lieu de tomber, il va se lever, pourtant je peux le faire, je le fais, c'est quelque chose d'accessible. Mais tu vois que dès que ma force s'arrête, ça retombe. Le plus grand ridouche qu'on puisse imaginer, c'est quoi? C'est quand de rien du tout, on a créé quelque chose. C'est la plus grande nouveauté qui puisse exister. À plus forte raison que pour avoir un ridouche comme ça, on a besoin d'une force qui est derrière. Maintenant, comment elle est cette force? Ça, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas croire ce que je te dis, donc ne crois pas. Mais tu es obligé de dire qu'il y a une force qui est derrière. C'est la nature même qui te le prouve.
D'accord?
Voilà. La nature même, elle te prouve que qu'est-ce que tu vois dans la nature? Encore une fois. C'est-à-dire, selon ces gens-là qui prennent la nature comme référentiel, on dit, votre référentiel vous prouve ce que je suis en train de dire. Moi, je prends pas la nature comme référentiel. Si la Torah me dit que c'est pas passé comme ça, c'est pas passé comme ça. Mais toi qui prends la nature comme référentiel, dans la nature, tu vois ça, ce que je te dis. Que quand tu veux faire un ridouche, quand tu veux faire une nouveauté, il faut la maintenir constamment. Et dès que tu arrêtes de la maintenir, ça retombe. La plus grande nouveauté qu'on puisse imaginer, c'est la création du monde. Donc, si Dieu arrêtait un seul instant de maintenir cette nouveauté, de maintenir la balle en l'air, qu'est-ce qui se passe? Ça serait retombé. Le monde arrête d'exister. Donc, c'est obligé de dire que Dieu a une main constante sur l'humanité. Après, sous quelle forme? Ça, on peut discuter. Mais déjà, il faut qu'on parte de cette base. Que Dieu est obligé d'avoir... C'est la nature elle-même qui nous le prouve. D'accord?
C'est aussi simple. Pourquoi tout le monde pense pas ça, alors?
Je sais pas. Toi, tu m'as expliqué.
Mais tout le monde...
Excuse-moi. C'est pas si... Si la preuve est évidente,
la question elle n'est pas sur... Bien sûr, c'est évident pour tout le monde qu'il crée rien, que tout est une évolution, ou voilà...
Non, c'est pas ça ma question.
Le problème, c'est pas
ça. La question, là, on est tous là, on est très intelligents tous, mais on n'est pas des génies.
Merci.
On est des gens normaux, c'est ce que je veux dire.
Ça n'engage que toi.
Non, mais je veux dire, on n'est pas des Bernard Attali, tu vois ce que je veux dire. C'est Jacques Attali.
Jacques.
Tu comprends? Ça t'a pas fait.
Invite-le au cours, Mathieu.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, si la preuve, elle est aussi évidente, tous les gens qui sont d'un niveau intellectuel élevé, ça serait évident pour eux.
Non, j'expliquais, ces gens-là, c'est très simple. Ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu.
Mais c'est pas...
Là, je suis pas en train de dire, attention, j'ai pas une preuve de Dieu ici, de l'existence de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit ici. J'ai une preuve que l'élément qui a créé la nature à la création, peu importe ce que c'est, cet élément-là doit avoir une influence constante, puisque c'est un ridouche. Il n'y a pas de plus grand ridouche que la création. Donc cet élément qui a créé, il a une influence constante. Maintenant, cet élément, appelle-le comme tu veux. Appelle-le Dieu, appelle-le l'élément premier, appelle-le ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
En quoi cet élément premier ne peut pas créer un système qui s'autogère tout seul?
C'est très simple. Parce que par définition, pourquoi moi je ne peux pas prendre ce verre et je fais un système qui s'autogère tout seul? Je jette le verre, il va s'autogérer, il va continuer à monter. Tu peux pas! Parce que c'est un ridouche. Et quand c'est un ridouche, tant que tu maintiens le ridouche, il est là. T'arrêtes de le maintenir, il retombe. C'est quoi le ridouche? C'est comme tu prends une personne qui a une nature, par exemple, une personne qui a une nature nerveuse. Et tu es là à côté, tu le calmes. Tant que tu es là à côté, il y a un ridouche, il se calme. Tu pars, il s'énerve. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que c'est un ridouche. Le ridouche n'est là que quand il y a une influence. Dès que l'impact s'arrête, le ridouche s'arrête. Donc, le plus grand ridouche qu'on puisse imaginer, c'est quoi? C'est la création du monde. T'es d'accord? Ça démarrait de quelque part. Donc, c'est la plus grande nouveauté qui puisse exister. Big bang, ce que tu veux. La plus grande nouveauté, c'est qu'on est parti de rien, on a créé quelque chose. C'est la plus grande nouveauté. C'est l'élément premier qui a créé cette nouveauté est obligé d'avoir une influence constante. C'est la nature elle-même qui le prouve. C'est le rouage de la nature. Il suffit d'ouvrir les yeux de voir la nature. C'est une règle de la nature.
Quand tu joues au Monopoly, tu crées un jeu Monopoly, d'accord? T'as des dés, t'as des billets.
Oui.
Et moi je te fais des règles.
Dans le cas du Monopoly, on est parti sur quelque chose déjà existant.
Oui.
Donc c'est pas un bon exemple.
Quand il crée le monde, il crée d'une certaine manière. Et ensuite, il fait un système existant.
Mais tu peux pas, encore une fois. Ça peut pas marcher, ça. Y a pas de problème de dire qu'après, Akadosh Baruch Hu a créé un système à l'intérieur avec des anges, etc. Ça n'est pas de problème. Mais il est obligé de continuer à le créer, de continuer à avoir un impact, de continuer à maintenir le ridouche.
Mais ça, c'est le ridouche du ridouche, excuse-moi, ça, c'est le ridouche.
Non.
Tu pourrais dire, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire un autre système.
Oui, j'ai compris. Là, attention, là, on n'est pas en train d'expliquer qu'est-ce que la Torah pense de tout ça. On est simplement en train de répondre aux gens qui ne croient pas en la Torah. On leur répond avec des éléments de la nature. Ils ont utilisé la nature pour amener des arguments. On a utilisé un référentiel de la nature pour leur prouver qu'ils se trompent. et que l'élément premier qui a créé la nature, c'est obligé de dire que cet élément premier continue à influer sur le monde. Maintenant, appelle-le ce que tu veux, cet élément premier. Appelle-le Tartampion, ça ne dérange pas. Mais cet élément premier a un impact qu'il continue à avoir. Vehen, hen, prinat, otiot, adibour, on lit encore deux, trois lignes. Prinat, otiot, adibour, matzara, mamarot, je vais me livrer où. Et c'est ça, la sara, mamarot. Les 10 paroles, la kadosh, baruch, qui continuent à, qui sont là en train d'influer sur le monde, c'est elles qui sont en train de générer ce ridouche constamment. Et si elles s'arrêtaient un seul instant, ça s'arrête tout de suite. Valzenemar, veata, mechaye, et kula. Et sur ça, on dit dans la tefila tous les matins, on dit Dieu, et toi, Kadosh Baruch, tu fais vivre tout le monde. Pourquoi on dit Dieu, il fait vivre tout le monde? Il me fait pas vivre. Je vis tout seul. C'est sûr que Dieu, il me fait vivre. Parce que Dieu, il continue à alimenter le chidouche de la création du monde. Si Dieu arrêtait un seul instant, j'arrête de vivre. Al tikrim chaye et la mehave. En vérité, Kadosh Baruch est en train de nous créer constamment. Yesh me'ayim. Il fait exister. Ve'ata, en prinat haotiot me'alef ata. Alors voilà, ça c'est le dernier mot. Le mot ve'ata, ve'ata mechaye et kulam. Dans le mot ve'ata, qu'est-ce qu'on a? On a le aleph, le tav et le he. Aleph et tav, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. He, c'est quoi? He, c'est 5. 5, c'est quoi? C'est les cinq méthodes, d'accord? Les cinq sorties de la bouche qu'on utilise. Ça veut dire, on utilise, pour parler, on utilise la lèvre, le nez, la gorge, la langue, le palais, enfin, on utilise cinq éléments. La semaine dernière. Et donc, c'est quoi Ata? Aleph, Tav, He. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, la dernière. He, les cinq groupes de lettres, comme on a expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on te dit? Ve'ata mechayat kulam. C'est l'alphabet. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui continue à créer toujours constamment à chaque instant. Et si l'énergie de Dieu s'arrêtait un seul instant, tout s'arrête. D'accord? Bon. Ah, maintenant, ça c'est un premier point. Maintenant, on va rattacher la semaine prochaine. On va développer encore beaucoup de notions. Et vous allez voir que c'est, on n'a pas compris encore. Mais on commence à comprendre. On commence à comprendre que la création du monde, c'est le plus grand ridouche qui puisse exister. Et pour maintenir ce ridouche, d'accord? Et c'est logique. Bon, si vous n'avez pas compris tous les détails, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on reviendra dessus, il y aura beaucoup de notions qui vont revenir.
On voit ce qu'on a dit, c'est le seul en vrai, c'est le seul ridouche, c'est pas le plus important.
Non, c'est le plus grand ridouche.
On n'a rien qui est ex nihilo, donc à part ça.
C'est un ridouche quand même. Un ridouche, c'est une nouveauté.
Ouais.
Une innovation.
Oui,
l'innovation.
C'est quoi l'autre de faire lever le verre, c'est pas une innovation.
Oui. Par exemple, le fait que tu prends une balle, je la jette en l'air, ouais. Le fait que la balle va en l'air, c'est un ridouche, une innovation, par rapport à la nature de la balle. C'est une mini-innovation.
Ah, mais l'air existe, la balle existe.
Mais il y a une innovation. Un ridouche, ça veut pas dire, un ridouche, ça veut pas dire une création. Un ridouche, ça veut dire une innovation. Le Morazaka, il a fait simplement qu'amener un exemple de la nature pour prouver que dès qu'il y a innovation, il doit avoir une force derrière.
Mais tu peux pas
dès que la force s'arrête, l'innovation s'arrête.
Tu peux pas mettre le même mot, même un degré moindre, qui définira à la fois la première création et à la fois une innovation. Tu peux pas, c'est pas la même chose, pas du tout la même chose.
Non, ridouche en hébreu, ça veut dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose d'inhabituel. Donc ridouche, tu as des petits ridouches, ridouche classique, voilà, comme je prends le verre, je le jette, t'as des miracles, un miracle c'est un ridouche aussi. Le plus grand ridouche qui ait pu exister, c'est la création du monde. Donc l'Admor HaZaken a fait simplement qu'utiliser un phénomène de la nature pour prouver ce qu'il voulait dire. Sans même toucher à la Torah, on n'a pas touché à la Torah là.
Sa mission c'est de ramener des ridouches.
Je comprends que...
Au moins un.
Attends,
je
que, ça tient debout là.
Des ridouches.
Je vous explique comment il a fait. Je vous explique comment il a créé,
ton
il a créé le monde.
Oui.
Très bien. Par exemple, quelqu'un il marche dans la rue, soit tu donnes de l'eau au goutte à goutte, donc il est tout le temps alimenté, donc il vit. Mais tu pourrais imaginer un système où tu lui mets 10 litres d'eau dans le dos, et dès qu'il a plus d'eau, il meurt. Il nous explique que lui, il a pris le système goutte à goutte.
Encore une fois, j'ai compris.
On apprend quelque chose.
Non.
Mais en quoi il n'aurait pas pu créer un système différent?
Parce que par définition, si tu prends juste un exemple de ce qui s'est passé dans la création du monde.
Oui, j'ai compris.
Tu comprends? C'est la nature elle-même qui te le prouve. Moi, je le crois parce que la Torah me le dit.
Oui.
Mais celui qui ne croit pas en la Torah, en analysant la nature, je ne sais pas comment un physicien exprimerait ça dans des termes de physique, mais c'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Une innovation doit être constamment maintenue.
Forcément, s'il y a une innovation, il y a une force.
Bonsoir, ça va David?
Il y a une force qui est tout en derrière. Pour qu'il y ait une innovation, pour qu'il y ait une force.
Exactement. Et pour que l'innovation continue, la force doit continuer.
Oui, mais je vois pas en quoi il y a une preuve.
C'est pas une preuve. C'est pas une preuve de la création du monde. C'est une preuve que l'élément qui a créé la nature en premier continue à avoir une influence, c'est obligé.
Je comprends que, qu'il explique comment il a fait, mais en quoi c'est une preuve? En quoi il ne peut pas créer un système différent?
Ah, il aurait pu, s'il voulait. C'est le problème. Mais ceux qui disent qu'ils ne croient pas, bonsoir, ceux qui disent qu'ils ne croient pas, on leur dit, il n'y a pas de problème, regardez la nature. Tu comprends? C'était uniquement pour répondre à ceux qui ne croyaient pas.